Ben, écoutez, d'abord, je vais vous remercier d'être là parce que c'est chouette pour nous quand on a terminé un terrain de recherche puis qu'on fait nos analyses, tout ça, puis qu'on commence à penser aux rapports qu'on va faire, aux écrits, puis tout ça. C'est vraiment humblement qu'on vient vous rencontrer, l'équipe de recherche, pour vous dire, voici un peu ce qu'on a trouvé, ce qui émerge. Puis on a comme besoin vraiment que vous nous disiez, ah, ça a une résonance versus la pratique ou versus mon expérience, ça moins, il me semble qu'il y a telle piste qui est plus à explorer, tout ça. Fait que c'est vraiment dans cet esprit-là où on vient et ça se veut un groupe de discussion. Donc, bien sûr, des données de recherche, hein, on en a beaucoup, beaucoup. Je vais essayer de mettre un peu la table, de faire ressortir des choses, mais on pourra échanger tout ça. La formule, on avait mis midi à 2 heures, parce qu'on se disait, bon, des fois, ça continue, mais en même temps, je sais que vous êtes au travail, fait que probablement, c'est pas possible pour vous de s'étirer. Soyez à l'aise, là, si vous devez partir un peu avant 1 heure, ou puis si vous avez des choses à dire, à ce moment-là, on pourra le faire au cours, tu sais, de l'intégrer dans nos échanges, n'hésitez pas à m'arrêter, puis tout ça. Alors, la recherche dont il est question s'appelle Vieillir et vivre seul. Comprendre la diversité des expériences pour mieux intervenir auprès des personnes âgées qui vivent seules. Évidemment, c'est une équipe, je suis pas seule. D'ailleurs, il y a des gens de l'équipe qui se sont présentés. Il y a plusieurs chercheurs en sociaux, en économie, moi, évidemment, travail social. Il y a Lynn Chamberlain aussi en sexo. Et il y a Marie-Emmanuelle qui s'est présentée tout à l'heure. Et il y a une équipe aussi de gens qui ont coordonné, qui ont fait des entrevues, tout ça. Alors, ça, c'est l'équipe. Je vais vous dire particulièrement qu'aujourd'hui, avec moi, vu qu'on va vous présenter surtout les données qui concernent le sous-échantillon des personnes âgées qui ont un parcours migratoire, bien, se joignent à nous Marie-Emmanuelle puis Bouchra qui ont fait elles-mêmes ces entrevues-là. Fait que des fois, on a des questions plus fines sur les personnes. Alors, on trouvait ça riche de les avoir avec nous. Parce que des fois, quand on présente des données, ben, on perd un peu de la singularité de l'histoire. Fait que donc, elles sont avec nous. Fait que je voulais souligner cet apport-là. Vite vous mettre en contexte. Écoute, je vous apprends rien comme travailleuse sociale quand je vous dis que l'habitant en solo, hein, c'est un phénomène de notre société, c'est un phénomène contemporain qui est majeur. Les données statistiques le confirment année après année. Et tout particulièrement en 2016, le recensement nous a dit, ben, c'est le mode dominant de vie des Canadiens, des Canadiennes et des Québécois. Il y a plus de gens qui vivent seuls que de gens qui vivent en couple et que de gens qui vivent en famille. Alors, c'est quand même important. Donc, c'est plus être à la nage de vivre seul, c'est un phénomène contemporain et on sait par les données puis tout ça que c'est un phénomène qui touche un peu plus les femmes, qui est un peu plus présent en milieu urbain, hein, dans les villes. Et on sait aussi qu'avec l'avancement en âge, surtout au grand âge, ben c'est plus fréquent avec les séparations, les deuils, tout ça, le phénomène s'accentue. Fait qu'on a mis, on n'a pas encore celle de 2016, mais les données de 2011 pour vous donner une idée. Dans les statistiques, on considère que chez les 65 ans et plus, c'est à peu près 30% des gens âgés qui vivent seuls. Mais si on regarde plutôt 35% les femmes et chez les 85 ans et plus, ben là, c'est 30%. Près de 30% des hommes et 57%. Et ça, c'est les données de 2011. Ça a un petit peu augmenté. Et c'est important de vous dire qu'on a toujours de la misère avec ces données-là parce que souvent, ils tiennent pas compte des personnes âgées qui vivent dans des résidences pour aînés ou des coops d'habitation ou des HLM, en fait, qui vivent seuls dans leur logement, mais c'est un milieu considéré collectif. Alors, les données sont un petit peu, sont sous-estimés. Alors, évidemment, on a fait nos devoirs, on a fait beaucoup de recensions de la littérature, on a une revue de littérature, si la question vous intéresse, sur notre site de la chaire. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'études sur l'isolement des personnes âgées qui ont permis de, tu sais, de montrer, bon, y a-tu assez de gens significatifs, essayer de quantifier le réseau, demander, il y a tant de personnes qui aimeraient avoir plus d'activités sociales. Donc, il y a eu beaucoup d'études quantitatives pour essayer de mesurer le phénomène de l'isolement, mais peu pour comprendre et aller voir les gens pour savoir qu'est-ce qu'eux vivent, comment ils voient leur réalité. Puis c'est un peu là qu'on a trouvé intéressant de faire une étude pour aller à la rencontre des personnes âgées qui vivent seules, parce que ce sont elles qui étaient les premiers concernés ici, puis plus sujets à dire, Ben, en fait, on s'est demandé qu'est-ce que c'est que de vivre seul quand on a 82 ans, quand on est une personne célibataire, quand on est veuf depuis peu, puis quand on a un parcours migratoire, puis bon. Alors, on est allé les rencontrer pour essayer de comprendre leur expérience. On avait un cadre théorique. Je vais vite, hein, parce qu'avant ça, je veux faire de la place aux données. Si vous avez des questions, hein, sur... on avait une perspective théorique, c'est-à-dire qu'en harmonie avec notre souci de faire une étude qualitative, on a pris la perspective qu'on appelle la perspective de l'expérience. En fait, c'est l'expérience des gens concernés qui nous intéressait. Puis vous savez que l'expérience, c'est pas juste le récit du vécu quotidien, mais c'est aussi la façon dont les gens voient leur réalité, comment ils la perçoivent, ils la conçoivent, qu'est-ce qui se passe au quotidien, mais aussi les stratégies qu'ils se donnent pour faire face à leur truc. Donc, on voit les citoyens âgés comme des gens, des acteurs de leur vie qui ont leur réalité en main et qui sont capables de poser un regard sur cette réalité-là. Fait que c'est important dans notre posture. Puis, on a jumelé une approche un peu plus intersectionnelle qui est plus près du travail social puis des réalités, qu'on est inégaux face aux réalités de la vie. Et on se disait, on peut penser que les hommes, les femmes, les personnes plus pauvres, les gens qui sont gays et lesbiennes, les gens qui ont un parcours migratoire ont peut-être pas le même rapport à l'expérience, puis qu'on est inégaux, qu'on peut vivre plus, disons, de diversité, mais un effet croisé, en tout cas, de tous ces facteurs-là. La méthode, donc, on est allé rencontrer ces gens-là, surtout chez eux. Certains ont voulu venir à l'université, nous sommes venus faire une entrevue à l'université, mais la majorité, on les a rencontrés chez eux, des entrevues d'une heure, une heure quart, parfois une heure trente. 43 personnes âgées ont été rencontrées, donc c'est un échantillon très diversifié. Donc, ben, c'est une réalité qui touche plus les femmes. On a vu plus de femmes, d'hommes. On a vu des gens, des jeunes vieux, des vieux vieux. On a quand même vu 19 personnes de plus de 80 ans qui vivent seules. Des gens, ben là, notre échantillon, il est à la lumière de la réalité contemporaine des aînés d'aujourd'hui. On a 15 célibataires. De plus en plus d'aînés sont célibataires, sans enfants, 13 sans enfants. C'est important, c'est une réalité qui n'a pas beaucoup été abordée. Des gens veufs, séparés, 20 avec enfants. Et vous voyez que la majorité vivent en solo depuis plusieurs années. Avec l'allongement de la vie, c'est un de nos constats, bien, on vit de plus en plus longtemps tout seul. Ça fait du sens, mais là, ça nous est apparu plus évident. Des gens comme les aînés, majoritairement des gens avec des revenus modestes. La grande majorité de notre échantillon vivent seuls avec moins de 25 000, la plupart avec moins de 15 000 même. Donc, beaucoup avec le supplément de revenus garantis ou quelques revenus. Puis, chez nos gens avec des parcours migratoires, c'est là qu'on voit les plus pauvres, ça ne vous surprend pas. Et 3 personnes qui font plus de 50 000, donc pas beaucoup d'aînés un peu mieux nantis. Des gens, au niveau des gens qui sont nés en dehors du pays, ben 10 aînés ont un parcours migratoire. D'ailleurs, vous savez, ben vous le savez même mieux que nous, même à Montréal, on sait que, Bouchra, Marie-Mal, vous corrigez, mais environ 42% des aînés de Montréal qui sont nés à l'extérieur du pays. Hein? Alors, c'est 1 sur 100.
C'est
2 sur 5, oui, 2 sur 5. Alors, on ne pouvait pas aussi, dans notre échantillon, on a dit, ben il faut voir aussi des gens qui sont nés à l'extérieur, ça nous paraissait important, cette réalité-là. Et évidemment, c'est de ceux-là surtout que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de ceux-là. Donc, on a visité nos données à la lumière de cette diversité-là de l'échantillon. Et on s'est dit, d'un coup donc, nos aînés migrants qu'on a rencontrés, est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'ils se distinguent? Est-ce qu'ils ont des singularités? Alors, c'est un peu ça qu'on va discuter ensemble. Et vous dites, dans les gens qu'on a rencontrés, il y en a 30 qui ont déclaré des problèmes de santé. Bon, surtout arthrose, arthrite, AVC, des gens qui avaient des cancers, des récidives, etc., des gens qui ont des troubles de mobilité, et 8 personnes qui ont déclaré, c'est eux qui le disaient, là, on n'avait pas un checklist, là, qui ont dit qu'il y avait des problèmes de santé mentale, surtout d'anxiété, état dépressif, dont un monsieur dont on va vous parler, et une personne qui a dit avoir une limitation intellectuelle. Ça, c'est les 10 aînés avec un parcours migratoire. Alors, qui sont-ils? Alors, ben, c'est Mariam, Mila, est-ce que c'est clair, le tableau? Oui. Hein, la clarté, c'est pas pire, oui. Alors, écoutez, le pays d'origine. Alors, les gens qu'on a rencontrés viennent de différents continents et de différents pays, République démocratique du Congo, Argentine, Haïti, Chine, Vietnam, Liban, Pérou, Haïti, Roumanie. Vous avez les âges des gens, donc des gens de différentes générations, de 65 à 93 ans. Leur statut matrimonial, là encore, on a quand même trois personnes célibataires, des veuves surtout. Et intéressant de voir que dans notre échantillon, quand même, on a deux personnes qui n'ont pas d'enfants, plusieurs qui en ont un. Alors là aussi, ça défait un peu. Des fois, on a l'image de la famille. Nous, on avait un peu l'image folklorique, tu sais, des aînés immigrants avec toute la famille, là. Alors, donc... Et déjà, vous dire, c'est quand même intéressant, Monsieur Thi, le Vietnamien, qui a quatre enfants, c'est lui qui a le plus d'enfants, puis ils sont ici. Ah ben, il y a Madame d'Haïti, là, mais c'est lui qui avait des enfants ici. C'est une des personnes qui souffrait le plus de solitude. Et les années en solo et les années de résidence au Canada, c'est important de le mentionner. Il y en a deux qu'on ne sait pas exactement. Mais ce qui arrive souvent en recherche, c'est qu'on voit surtout des gens que ça fait longtemps qu'ils ont immigré. Dans le recrutement, c'est souvent un biais de nos résultats. Donc, c'est sûr que ça serait intéressant d'aller voir des gens seuls que ça fait moins longtemps. On irait voir d'autres réalités. Mais quand même, on a ces 10 personnes-là. Important de vous dire que, et Marie-Emmanuel, puis Bouchra aussi, qui travaillent avec des personnes immigrantes, puis qui font dans leurs travaux l'histoire migratoire des gens ici, on n'a pas fait l'histoire migratoire. On les a rencontrés, comme les autres aînés, en disant, on fait une étude sur vivre seul, est-ce que ça fait longtemps que vous vivez seul, c'est arrivé comment, puis là, ça se passe comment le quotidien, voulez-vous m'en parler, une semaine, vous voyez qui, donc... Exactement le même cadre d'entrevue. Donc, on n'a pas toutes les informations sur le parcours migratoire. Bonjour, bienvenue parmi nous.
C'est fort pertinent de les avoir. Mm-hmm. Parce qu'il y a des questionnements qu'on se pose ou des commentaires des personnes âgées où on se dit si cette historique migratoire-là a des effets sur la façon de percevoir et de vivre.
C'est ça. Alors là aussi, c'est là où on est dans des données exploratoires pour dire est-ce que ça ouvre aussi d'autres pistes de recherche peut-être. Peut-être vous faire une aparté. Pourquoi aussi les personnes âgées immigrantes? J'ai fait une recherche sur les femmes aînées immigrantes et leur rapport au vieillissement où on a fait des petits groupes avec des femmes immigrantes. On en a rejoint 100 à Montréal dans leur langue avec des étudiantes de la même communauté qui parlaient leur langue sur qu'est-ce que vieillir au Québec, tout ça. Probablement des résultats que vous aimeriez sûrement entendre. Et j'ai été jetée à terre parce que sur les 100 femmes qu'on a rencontrées, il y en avait 35 qui vivaient seules. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, ça a été une révélation, vraiment. C'était vraiment une surprise. Puis, il y en avait 25 qui vivaient avec leur conjoint. Fait que ça a été déjà de dire, ben là, maintenant que je travaille sur vieillir, vivre seul, ben c'est un phénomène contemporain qui touche définitivement les aînés aussi. Alors, les résultats, ce que je vais vous parler aujourd'hui, puis sur lequel je vais vous inviter à interagir, dans notre recherche qualitative, on s'est intéressé à qu'est-ce que l'habitant en solo pour ces gens-là, vivre seul, comment ça marche au quotidien, comment ils s'organisent, là, le logement, les repas, c'est vraiment pratico-pratique, là, etc. Mais qu'en est-il aussi de leur vie sociale? C'est-à-dire, est-ce que vivre seul, habiter seul, ça veut dire être seul? Est-ce qu'ils sont isolés? Parce que le premier facteur de risque pour être isolé, c'est de vivre seul. Fait qu'on le savait pas. Et l'autre élément, c'est qu'en est-il de leur solitude? Est-ce qu'ils se sentent seuls? Alors, les résultats qu'on va vous présenter, c'est donc, ben, qu'est-ce qu'ils nous ont dit du vivre seul, être seul, de leur relation sociale et se sentir seul. OK? Et pour nous,
c'est... Est-ce par rapport au recrutement?
Oui.
Vous avez recruté,
De plusieurs façons. Le projet de recherche se fait en partenariat avec les Petits Frères et aussi la FADOC. Donc, on a fait un premier appel dans la revue FADOC, puis on a contacté des organismes d'aînés, du bouche à oreille, on a fait connaître la recherche. Et après ça, pour aller rejoindre certains groupes plus particuliers, là, on a ciblé, comme on voulait aussi avoir des gens qui avaient des historiques aussi en santé mentale, on ne voulait pas voir que des personnes âgées qui sont contentes de venir nous parler puis qui sont contentes, tu sais. Donc, on voulait avoir des gens aussi qui avaient des histoires plus difficiles. Donc, on a appelé des organismes aussi en santé mentale qui ont fait diffuser l'information de la recherche, qui en ont parlé. On a un peu de recrutement avec les petits frères pour aller voir des grands isolés.
Ouais.
Pas un grand nombre, mais certains. Et on a fait des relances pour les hommes. On a fait un avis de recherche d'hommes qui vivent seuls à la FADOC, dans le journal de la FADOC. Puis pour les personnes immigrantes, on a utilisé, Bouchra, rappelle-moi, les organismes communautaires.
Les organismes communautaires qui interviennent, qui sont reconnus pour intervenir auprès de personnes aînées qui ont au sein de leur utilisateur des personnes immigrantes. Donc, il y en avait notamment là, ici dans le quartier, pas ici, mais à Côte-des-Mèches. Tu sais, on a vraiment répertorié certains organismes et on leur a demandé d'identifier des personnes qui pouvaient être intéressées à participer.
Donc, au total, 43. Ouais. Mais vous avez vu que, puis avec un souci de diversifier l'échantillon, étant donné que c'était une étude qualitative, la diversité de l'échantillon donne beaucoup de richesse aux expériences et aussi nous permet aussi, puis c'est là qu'on voit des gens, parce que là, avec nos résultats, on est allé voir des gens qui font du soutien à domicile post-opératoire, on est allé voir des associations d'aînés, on vient voir parce qu'on teste nos résultats, puis on dit, bien, peut-être qu'il y a des pistes, peut-être qu'il y a des choses pour l'intervention, puis là, on s'en va vers le rapport final, puis dire, ben qu'est-ce qu'il faut mettre de l'avant, tout ça, puis c'est là qu'on a besoin de vos échos. Puis, effectivement, on n'a pas vu toutes les réalités, ça, c'est sûr. Peut-être vous dire que dans l'échantillon, il y avait deux personnes qui se sont affichées comme étant homosexuelles, et il y a eu un autre projet avec Lynn Chamberlain, puis Anne, auprès des femmes lesbiennes aînées qui vivent seules, puis un rapport de recherche spécifique pour cette réalité-là. Elles ne sont pas tellement différentes des aînés en général, puis des résultats, on peut vous le dire. Puis vous allez voir qu'on n'est pas si sûr que nos aînés au parcours migratoire sont si différents non plus, mais il y a quelques spécificités ou il y a quelques éléments sur lesquels on veut vous entendre. Alors donc, vivre seul, qu'est-ce que vivre seul pour les gens qu'on a rencontrés? Alors, la première chose que je veux vous dire, c'est bien sûr la façon qu'on voit le monde puis qu'on se perçoit, ça teinte nos comportements, tout ça. Alors, c'est pas rien de demander aux gens, mais qu'est-ce que c'est pour vous de vivre seul? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Puis pour vos enfants, puis comment les autres autour de vous perçoivent? D'abord, je vais vous dire que la grande majorité des aînés qu'on a rencontrés entretiennent pas du tout un discours négatif sur le fait de vivre seul. Alors, à l'encontre des images qui sont un peu misérabilistes, là, quand on dit vieillir seul, on voit quasiment le tadam, tu sais, l'abandon, tout ça, ben les gens qu'on a rencontrés se présentent pas comme des victimes, pas du tout. Et pour la plupart, vivre seul, c'est beaucoup associé à la liberté, à l'autonomie, à l'indépendance. Même si le fait d'être seul, c'est pas un choix, il y a souvent des circonstances difficiles, un deuil, une migration, une perte d'un être cher, bon, des choses, ça a été difficile, puis l'adaptation a été difficile, mais maintenant, ils vont avouer qu'ils l'apprécient. Il y avait une dame qui disait, une des dames québécoises née au Québec, elle disait, moi, je bois mon lait comme ça me plaît, ça illustre bien. Mais pour vous l'illustrer, Mila, qui a quand même 75 ans, puis qui est d'origine congolaise, elle raconte qu'elle a été contrainte de vivre seule, puis que c'est pas par choix. Par contre, elle veut pas pour autant aller vivre avec sa fille. Elle apprécie son indépendance. Fait qu'elle dit, la famille, elle dit, ils comprennent pas pourquoi j'habite pas avec ma fille. Mais là, elle est congolaise. Mais elle dit, je préfère être indépendante, je suis libre de mes mouvements, je suis maître de moi-même. Ma fille est un peu protectrice, hein, puis la part arrive. Alors, cette dame-là a 34 ans de vie en solo, à 75 ans. Fait que je trouve que son histoire illustre bien. Je veux dire, c'est clair là, que même si c'est pas toujours facile, fait qu'on peut dire que les représentations de l'habiter seul, ils s'enracinent dans un Québec contemporain puis dans des valeurs qui remettent un peu en question le modèle familialiste auquel on associe beaucoup les aînés. T'sais, oh, les aînés veulent être avec leurs enfants puis ça, et encore plus les personnes âgées immigrantes. Et c'est pas ça qu'on a constaté. Par contre, faut que je vous dise aussi quand même que les représentations du vivre seul sont quand même teintées, nuancées par certains facteurs, le genre, la génération, les gens à qui c'est arrivé très tard, tu sais, vivre un deuil, un veuvage à 84 ans, là, c'est pas mal plus difficile, puis l'adaptation est plus ardue, tu sais, c'est pas rien. Donc, on a vu une différence de genre, puis une différence d'appartenance aussi, d'origine ethnique, c'est-à-dire que les personnes âgées qui sont issues des pays où le phénomène du solo est vraiment marginal, ont souligné que c'est, qu'ils ont eu plus de difficultés d'adaptation. Alors, Mariam, elle nous disait, en Afrique, on n'habite jamais seul, c'est le clan, ça, c'est pas imaginable de vivre seul dans notre pays. Ça veut pas dire qu'elle y trouve pas des avantages. D'ailleurs, elle va nous dire qu'elle est un peu solitaire puis qu'elle y trouve son compte. Mais le script culturel est important. Donc, mais il influence les personnes qu'on a rencontrées, mais pas toutes de la même façon. Donc, je voudrais vous dire que ainsi, les femmes s'affichent nettement plus indépendantes que les hommes. Et les femmes aînées qui ont un parcours migratoire par rapport aux hommes aussi. Ainsi comme l'avancée en âge puis le parcours migratoire pour nos deux messieurs, c'est beaucoup plus difficile. Je pense entre autres à M. Thi, le Vietnamien, pour qui c'est assez difficile d'accepter d'être seul, c'est souffrant, mais aussi Elias qui disait « c'était pas un choix vieillir seul, vous savez, parce que chez nous, les Orientaux aiment garder le prestige de la famille ». Hein, c'est un prestige au Liban, pour lui, Libanais, tout ça, ça se faisait pas. Toujours, j'étais en contact avec sa femme qui était retournée au Liban. Il y allait souvent, on est séparés, c'est-à-dire d'un pays à l'autre, mais il restait. Et c'est intéressant de voir que sa femme est décédée il y a quelques années, et même s'il était séparé depuis longtemps, il vit là, vraiment un très grand deuil. Donc, les scripts culturels ont pas les mêmes poids. Pour certains, c'est plus lourd, mais... Pour plusieurs femmes, je pense à Dadori, qui a 93 ans, qui est haïtienne, qui est venue rejoindre ses enfants il y a 30 ans, Galina, qui a 83 ans, puis Lynn, la dame chinoise dont on va vous parler, elles sont très contentes de vivre seules ici. Alors, souvent, d'ailleurs, c'est les enfants qui sont les plus inquiets. Ça, ils nous l'ont dit. C'est quoi leur expérience? Bien là, je vais vite, mais... D'abord, je l'ai dit tantôt, ces gens-là ont quand même une longue expérience de la vie en solo. Là. On a parlé à des gens expérimentés. Ils ont des stratégies, des trucs depuis longtemps qu'ils vivent seuls. Fait que finalement, l'organisation, tout ça, c'est beaucoup de la débrouille. Les gens s'organisent bien. Mais ce qui est très, très important chez les gens qu'on a rencontrés, qui en général étaient assez satisfaits de leur logement, même si c'était modeste à nos yeux, en général, elles se satisfaisaient pas mal de leur logement, mais ce qui était le plus important pour elles, c'était l'emplacement puis la sécurité. Puis la sécurité, ben ça, vous allez le comprendre, la sécurité physique, surtout pour celles qui viennent de pays où elles ont connu des menaces à leur intégrité physique et à leur vie et à celle de leurs proches, mais aussi une sécurité financière, économique. Particularité, on avait 6 aînés sur 10 qui vivaient en HLM. Ça veut dire que par le regroupement dans les groupes communautaires, c'est donc des gens aussi qui étaient connus par des HLM où il y avait des réseaux. Donc ça, c'est un grand facteur de protection, évidemment, sociale et économique, d'avoir un logement HLM. C'est donc crucial pour eux donc d'être bien situés à proximité. Et par exemple, la proximité, Lynn, la dame chinoise, elle vit seule depuis 9 ans. Mais c'est intéressant parce qu'elle a choisi une résidence dans le quartier chinois, d'où elle a tous les services à proximité, puis dans sa langue. Elle ne parlait pas, on a eu besoin d'un interprète, elle ne parlait pas la langue. Et Lynn a choisi de rester là plutôt que de suivre sa fille qui est déménagée, parce qu'elle est revenue rejoindre sa fille. Elle a son logement, puis sa fille est partie.
Pour retourner à son conjoint. La dame était venue, sa fille l'avait parrainée il y a quelques années, donc elle restait avec elle. Et lorsque le conjoint de sa fille avait retrouvé un emploi en Chine, donc il retournait en Chine, mais elle a décidé qu'elle voulait rester ici. Puis elle nommait entre autres qu'elle trouvait que c'était moins pollué. Puis à ce moment-là, comme elle était beaucoup impliquée auprès de son petit-fils, qui avait grandi, elle considérait que c'était un bon moment pour recommencer une vie à elle.
Ouais. Fait, mais quand même, dans le choix du vivre seul, ça vous l'illustre, là, tu sais, le choix, le, tout ça. Fait qu'on essaie d'illustrer les phénomènes puis de vous montrer dans les parcours des gens. Donc, la sécurité, l'emplacement, c'est crucial pour eux. Donc, l'emplacement, ça peut être près de la communauté, ta communauté culturelle, mais ça peut être aussi près des enfants. On avait des gens qui vivaient pas loin de leurs enfants. Puis Evelyne, elle disait qu'il vit seule depuis 5 ans, elle disait... elle dit, lorsqu'il y avait des gens qui vivaient ici, j'étais un peu inquiète. Elle est propriétaire. Alors ça, c'est notre madame riche, là. Dans nos trois, là, c'en est une. Ça, Evelyne, c'est une infirmière, c'est une femme d'affaires, là. Elle est quelqu'un, hein. Donc, et c'est une dame haïtienne, hein, Evelyne? Oui. Et, maintenant, elle a sa maison, puis sa fille habite en bas. Alors là, elle est vraiment rassurée. Elle dit, quand il y avait des gens qui habitaient ici, j'étais un peu inquiète. Mais là, maintenant, c'est ma fille qui est en bas, vraiment, pouf, je relaxe. Je suis plus que relax, n'importe, tu sais. Alors là, c'est pour elle, c'est un élément de sécurité, tout ça. Donc, les gens vivent seuls souvent depuis longtemps, ou en tout cas dans des logements qui leur conviennent, dont ils sont satisfaits, et depuis longtemps. Mais là, on comprend à quel point, et ça c'est vrai pour tout notre échantillon, l'idée de devoir déménager est excessivement anxiogène. Et là, donc, la stabilité résidentielle est très importante, et l'effet des transitions résidentielles sont majeures dans leur vie. Donc, en contrepartie, on l'a très bien vu parce que Lisa, une de nos répondantes, nous a montré l'impact du déménagement. Elle est déménagée récemment, puis ça s'est combiné avec le placement de sa mère en CHSLD dont elle prenait soin. Alors là, il y a eu plusieurs changements et c'est très clair, ce déménagement-là à l'extérieur, elle est loin de ses amis. Elle a changé de milieu de vie. Sa mère est placée, vraiment, cette femme-là s'est retrouvée dans une situation où là, vraiment, elle est plus isolée, déprimée, on va en parler. Donc, on voit l'effet combiné des transitions. Les enjeux, parce que pour chacun, là, je parle du vivre seul, mais rapidement, les enjeux. Ben, écoutez, à l'instar des aînés nés au Canada, les gens qu'on a rencontrés avec leur parcours migratoire ont tous souligné la crainte qu'ils ont de pas avoir accès à des soins ou des services advenant une perte d'autonomie. Et ça, c'est vrai nonobstant leur situation de santé. Parce que je vous ai dit, on a vu des gens qui avaient déjà des cancers, qui vivaient seuls, qui avaient des AVC, puis ça, mais chacun a peur de demain si je perds l'autonomie. Alors, c'est... donc, cette crainte-là, elle touche tout le monde, que la personne semble plus ou moins ayant plusieurs ou pas problèmes de santé. Et je trouve que Evelyne l'a bien exprimé, comme elle est infirmière puis qu'elle connaît le réseau, elle a sait de quoi elle parle. Puis là, elle dit, est-ce que je pourrais avoir des soins décents? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour avoir ces soins-là? Je ne sais pas. C'est ça qui m'inquiète. C'est surtout ça qui m'inquiète. Alors, si elle est la plus, une des mieux nanties en termes de ressources financières, ressources intellectuelles, réseau de soutien, connaissances de la santé, tout ça. Imaginez nos aînés migrants qui, eux, se retrouvent dans des situations précaires, ceux qui sont célibataires, qui sont plus isolés, comme Lisa et Anna. Lisa, elle disait d'ailleurs que pour elle, l'inquiétude, c'est la question économique. C'est très clair. Et Anna aussi, qui nous en a parlé. Celle-ci, Anna, c'est une femme célibataire qui est sans enfant. Elle habite dans un HLM, puis elle vient d'avoir une opération pour son cancer. Et là, sa situation se détériore. Elle ne peut plus monter les escaliers. Elle est inquiète économiquement parce qu'évidemment, elle a toujours survenu toute seule à ses besoins et elle ne peut plus travailler. Alors, elle dit elle ne sait pas comment elle va faire face à d'autres pertes d'autonomie, éventuellement son décès. Puis elle est même inquiète pour dire ben, comment son corps va être rapatrié au Pérou. Parce que c'est ça aussi qui l'inquiète. Donc, la perte d'autonomie, qu'est-ce qui va arriver? Donc, un faible revenu, ça a des impacts énormes pour les gens dans l'accès aux soins, aux services, la capacité de payer des services. Et pour vous donner un exemple, une des dames, Galina, attends que je l'ai devant moi, pas me tromper. Galina, c'est une dame qui a... Oui, 83 ans quand même, puis Galina, c'est une femme célibataire qui vient de Roumanie, tout ça, qui vit seule depuis longtemps, mais qui a sa voiture, puis c'est sa façon, elle peut aller dans la communauté roumaine, au chalet d'une amie, c'est vraiment sa liberté, son auto, tout ça, mais elle aussi, évidemment, est à faible revenu, et malheureusement, elle est obligée de vendre sa voiture pour pouvoir se faire réparer les dents parce que la... Elle a des problèmes de dents, ça arrive surtout après 80 ans. Puis elle dit qu'elle n'a pas le choix. Alors, vous imaginez, elle est obligée de renoncer à sa voiture, qui est son autonomie, sa liberté, pour faire soigner. Fait que ça vous illustre concrètement, là. Elle est obligée pour avoir accès aux soins. Puis elle disait, c'est un grand plaisir pour moi conduire. On ne peut pas, à mon revenu, je ne pourrais pas faire les deux. C'est plus important la santé que mes dents. Fait que ça illustre des exemples de comment ça se joue. Est-ce que ces gens-là sont seuls? Est-ce que vivre seul pour les personnes migrantes, ça veut dire aussi être seul? Est-ce qu'ils sont isolés? C'est la question qu'on se demandait. Ça va jusqu'à maintenant dans le rythme? Vous me suivez bien? Eh bien, là aussi, l'étude est quand même assez... assez rassurante. Les gens qu'on a rencontrés entretiennent des relations sociales et de différentes sortes, on va vous en parler. Et pour elles, ce qui est très intéressant, parce que quand on pense aux personnes âgées pour relations sociales, être seule, on pense surtout, est-ce qu'il y a des gens pour les aider? Est-ce qu'ils ont accès à des... est-ce qu'ils sont soutenus? Hein? On a souvent une vision instrumentale des relations sociales des personnes âgées. Quel biais! Mais c'est intéressant parce qu'elles nous ont parlé de elles, qu'est-ce qu'elles apportent à leurs proches. Alors, c'est important de vous dire que quand on leur a demandé de parler de leur relation sociale, ben c'est beaucoup plus en termes de réciprocité. Puis elles nous ont raconté qu'est-ce qu'elle, elle apporte. Alors, Evelyne est très contente de donner un coup de main à sa fille, des fois le matin, qui habite en bas, puis quand elle est un peu débordée. Et ici, notre monsieur vietnamien nous a raconté qu'il aide son petit-fils. Il dit, son petit-fils est étudiant, puis il dit, il est très sérieux. Il dit, chaque mois, je lui donne 200 $ pour l'encourager, pour l'aider pour ses études. Il dit, et puis on parle le vietnamien, parce que lui, c'est le seul qui parle vietnamien. Fait que, il parle vietnamien, fait qu'il est vraiment très fier. Il nous a raconté ça. Les gens nous ont conté aussi les petits plats qu'ils font quand une autre dame est malade, tout ça. Donc, ils nous ont parlé beaucoup de l'importance de la réciprocité dans leurs liens. Et plusieurs, comme chez nos aînés québécois, sont engagés dans des associations. Il y en a qui étaient impliqués dans leur église, les mamies immigrantes, dans les centres communautaires. Il y en a une aussi qui est impliquée dans un centre de femmes. Donc, ils sont engagés, ils nous ont parlé de ça dans leur réseau. Ceux aussi, ce qui est important de vous dire dans leur représentation sociale, aussi un petit peu à l'encontre du modèle familialiste, puis il faut que les enfants m'aident, tout ça, bien les gens ont parlé aussi de l'importance de trouver une juste distance avec les enfants. Donc la famille est centrale, bien sûr, mais une juste distance, ni trop proche, ni trop loin, hein, avec ceux qui vivent ici au Québec. Et pour pas se faire envahir, pas les envahir, ça c'est clair. Vous voyez les extraits, ils savent que leurs enfants sont très occupés, qu'on n'est pas en Afrique, ils appelleront pas tous les jours, c'est bien correct, puis ils viendront pas tout le temps. Mais en même temps, ils veulent garder leur marge, ils veulent pas être envahis, mais aussi ni trop loin de ceux qui sont à l'extérieur du pays. Et ça réaffirme aussi l'importance, quand on pense au réseau social des personnes immigrées, de l'importance des gens qui sont éloignés géographiquement. Fait que le réseau social, c'est pas juste ceux ici, ceux proches, les amis. Une chose qu'il faut vous dire, les gens nous ont parlé beaucoup des liens d'amitié et de voisinage. Alors, les personnes âgées qui vivent seules, les personnes âgées, évidemment, les familles sont plus qu'elles étaient, elles sont moins nombreuses, plusieurs n'ont pas d'enfants, tout ça, les amis, les voisins jouent un rôle important. Ce qui est particulier pour les personnes immigrantes, c'est que leurs amis sont tous des gens qui, comme eux, ont une histoire migratoire. Il y a seulement Evelyne qui avait une amie d'origine québécoise. Alors ça, c'est un constat. J'aimerais aimer ça vous entendre là-dessus. Ça l'a soulevé des questionnements. En tout cas, ça parle de nous et de quelque chose. Donc, les amis sont importants. Évidemment, il y en a 5 sur 10 qui n'ont pas eu d'enfants, puis ou un seul. Fait que les amis jouent un rôle important. Et surtout pour les femmes qui sont très sociables. Tu sais, elles ont des liens, Myriam, Galia, ils ont beaucoup d'amis. Une dit d'ailleurs, c'est naturel, ça me semble tout à fait accepté. J'ai toujours eu des relations sociales. De ce point de vue-là, elle dit, on peut pas dire que je suis seule. Elle dit, parce que j'ai toujours quelqu'un qui vient me visiter. Je pars en visite ici et là, j'appelle. Donc, les femmes sont proactives dans leur réseau, tout ça. Mais en même temps, Je veux dire que d'autres font face à des freins à la possibilité d'avoir des liens sociaux, puis des amitiés, puis de participer socialement. Et à cet égard-là, je pense que M. T, qui est un homme plus isolé, tout ça, lui, ce qu'il fait pour voir des gens, il dit qu'il va prendre un repas communautaire par semaine dans son centre communautaire. Puis là, il y a un repas, il s'assoit proche des Vietnamiens, puis il écoute la conversation. Il parle pas, par exemple, il écoute. Mais, malheureusement, l'hiver, il sort pas. Alors, oui, les gens ont des vies, mais il y a des freins, il y a des barrières à la participation. Tout le monde n'a pas beaucoup d'habiletés sociales pour tisser des liens, mais l'hiver, écoutez, l'hiver au Québec, c'est un frein très clair. Un petit mot sur les relations amoureuses, parce que, oui, les enfants, tout ça, ben écoutez, ça, il y a vraiment quasiment un article ou une thèse à écrire là-dessus. Alors, vous dire que chez les répondants qu'on a rencontrés, chez les personnes âgées québécoises, on avait quelques répondants, c'est à peu près qu'il y avait un chum ou une amoureuse avec qui il y avait une relation, des fois depuis très longtemps, des fois même 20 ans, tout ça, mais qui ne cohabitaient pas. Puis ça, c'était vraiment par choix, tu sais. Alors, les gens avaient des amoureux, des amoureuses, tout ça. Il y en a qui s'étaient en devenir, hein. Il y en a une qui n'était pas encore faite, mais ça s'en venait, là. Puis tout ça, mais pas chez les 10 personnes immigrantes qu'on a rencontrées. Il n'y avait pas d'amoureux, d'amoureuses. En tout cas, ils n'en ont pas parlé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fermés. Ils nous ont parlé que l'amour leur manque. Ça, c'est clair, tout ça. Mais les discours étaient vraiment divisés et beaucoup empreints de préjugés sexistes de part et d'autre. Alors, les dames nous ont parlé, non, pas un autre de qui je vais m'occuper. Alors, Evelyne résume très bien ça. Parce que les hommes haïtiens, là, je sais pas pour les autres hommes, là, mais ils cherchent des infirmières. Parce qu'ils se disent, elles font de l'argent, donc ils peuvent bien vivre. Alors, avoir une voiture, et puis moi, ça m'intéresserait pas. Ou bien d'autres qui disent, je m'occuperai pas d'un homme. Puis d'autre part, les hommes qu'on a rencontrés, eux, ils veulent vraiment, vraiment, là. Monsieur Elias, monsieur Tissi, là. Et même monsieur Elias, là, il va dire, le futur, c'est ça, d'avoir pas une partenaire, non, une conjointe, là. Lui, il était vraiment, puis même, Marie-Emmanuelle, tu l'as rencontré, il était un peu déçu parce qu'il pensait que notre étude l'aiderait à trouver quelqu'un. Mais non, je te rencontre.
Alors, ils sont où les femmes? Pensaient que je vous étiez des dames.
Oui. Alors, là, il y a une question de genre aussi dans le rapport, mais oui, à l'amour, il y a du manquement, mais pas à tout prix, puis il y a quelque chose là, vraiment, qu'on pourrait discuter, tout ça. Les principaux enjeux sur les relations sociales, la vie sociale des aînés seuls qu'on a rencontrés, ben on, là encore, la plupart ont des liens sociaux assez satisfaisants avec leur famille, avec des amis, des voisins, surtout qui ont une histoire migratoire. Mais il me semble, puis il nous semble, puis là on pourra en jaser, un peu plus difficile pour eux en avançant en âge de demeurer proactifs parce qu'ils nous semblent plus fragiles quand les personnes significatives décèdent. Ça semble plus difficile pour eux de renouveler des liens, d'être capable de développer des nouvelles relations, tout ça, à cause des freins qu'on a parlé, des barrières, tout ça. Cela, à notre avis, les rend particulièrement vulnérables quand il y a une transition. Qu'est-ce qui arrive à un déménagement de ces personnes-là seules, une perte de santé, décès d'une personne significative, comme on l'a vu, inévitablement, ils se retrouvent en plus grande situation d'isolement et, à notre avis, beaucoup plus à risque. Et on l'a vu, par exemple, dans notre échantillon, il y a 3 personnes sur 10, Lisa, Anna et Elias, qui sont vraiment dans une situation d'isolement. C'est pas qu'ils n'ont pas de réseau social, mais ils ne les mobilisent plus, ça s'effrite pour différentes raisons. Et la situation génère aussi pour eux plus de solitude. C'est comme si le filet de protection s'effrite. Alors, Anna, elle disait, je suis toute seule, mais j'aimerais quelqu'un de ma famille qui vienne, là, tu sais. Et Elias qui disait vraiment, je suis seule ici. C'est pas qu'il a toujours été seul, mais là, il mobilise plus. J'ai personne ici, mais recevoir des amis, non. Il y a plus d'amis. Ni amis, tout ça. Et celle qui vit la perte, la dame qui vit le placement de sa mère aussi, Anna, dont on parle ici, elle n'a plus la force d'appeler une voisine ou de venir prendre un café. Là, elle n'est plus capable de mobiliser son réseau. Donc, il y a là des enjeux quand il arrive des transitions. Et aussi, la question du réseau entre migrants, je l'ai nommé comme ça, c'est des réseaux ethno-sans. Je ne savais pas trop quel terme utiliser, mais il y a quelque chose là. Les groupes sont assez fermés, même ceux qui vivent dans des HLM, puis tout ça, bon, c'est pas facile, l'inclusion sociale. Est-ce qu'ils se sentent seuls? Alors, bien, il est moins 10, je vais vous donner un petit peu de temps pour parler, mais je veux vous dire rapidement qu'on pourra revenir sur ces données-là. Sur les représentations, là, la solitude, c'est un sentiment, hein, comme on le sent. Alors, d'abord, on a comme compris que la solitude, là, c'est un état dynamique. Plutôt qu'un état, ça peut être aussi un état, mais c'est surtout quelque chose de dynamique. C'est qu'il y a des temps aux fêtes, il y a des moments, comme une personne nous racontait, que c'est au moment des vacances. Elle a toujours des souvenirs de sa famille avec les enfants, puis il y avait un rituel de vacances. Puis là, elle dit, quand arrive juillet, là, elle, c'est épouvantable. On ne penserait pas d'emblée que c'est un moment où c'est beaucoup plus souffrant. Hein? On pense aux fêtes, aux anniversaires des enfants ou du conjoint. Bon. Donc, et ces moments-là s'inscrivent dans l'histoire, la trajectoire de la personne. Donc, la solitude, c'est dynamique, mais ça s'inscrit dans l'histoire de chacun, chacune. Aussi, les gens ont dit, ben, il y a de la solitude choisie, puis il y a de la solitude subie. C'est pas la même chose. Il y a quelque chose aussi dans le fait d'être seul, d'avoir des moments avec soi, de faire, tu sais, un temps, puis on a toujours le goût de voir d'autres mondes, puis d'être sociable, puis tout ça. Moi, je comprends très bien ça. Mais, en même temps, la solitude subie, ben, est plus liée... La solitude choisie, elle serait plus liée à un tempérament, à quelque chose qu'on veut. Je suis plutôt solitaire, moi je suis bien à lire, tu sais, j'ai des choses qui me nourrissent. Tout ça, on va voir tantôt, on a une qui faisait du tai chi, Lynn a fait du tai chi. Elle a choisi ses moments de méditation, tout ça, c'est une solitude qui est saine pour elle, qui est positive. Mais la solitude subie, elle, est plus liée à des facteurs sociaux, soit à cause du célibat, du fait de ne pas avoir d'enfants, d'être séparée. Évidemment, la migration aussi qui te sépare des gens significatifs. Ça nous amenait à dire aussi, est-ce qu'il y a une solitude plus particulière à la migration? Est-ce qu'il y a une solitude migratoire? Question. Ils ont rapporté aussi faire plusieurs formes de solitude. C'est pas pareil s'ennuyer de ses enfants, s'ennuyer d'un amoureux, avoir une solitude du quotidien. Tu sais, quand c'est plate, là, quand il n'y a rien, là, tu sais, tout ça. Fait qu'il y a vraiment, puis il y a une solitude plus existentielle, plus profonde, elle est là dans la vie, hein. On est seul, on meurt seul. Les gens nous ont parlé, les très âgés nous ont parlé, oui, mais tu sais, c'est la vie aussi, on s'en va, une solitude dont on ne veut pas beaucoup parler. Donc, juste vous dire que les visages de la solitude sont pluriels, et là encore, on est inégaux face à la solitude. Les gens ont différentes stratégies face à la solitude, et... pour vous dire que pour Ti, par exemple, la solitude était très profonde. Il va dire, c'est mon destin, je ne peux rien faire. Mais sa solitude est profonde depuis qu'il a perdu sa femme, il y a nombreuses, nombreuses années. Il l'a perdu dans la trentaine. Alors, ce n'est pas lié au vieillissement, ce n'est pas lié... OK, donc, il ne s'en est pas remis. Et il était... Et même, il a dit, si on pouvait au Québec, il a parlé de l'aide médicale à mourir. Il voulait partir. La vie n'avait plus de sens pour lui. Et dans les stratégies, ben, selon que la solitude vécue est plus dans le rapport aux autres insatisfaisants, c'est-à-dire ce qu'on voit souvent, c'est-à-dire parce qu'on manque de liens, parce qu'on trouve qu'on n'a pas, ben là, les gens développent des stratégies, appellent les leurs, font de la recherche, vont au groupe communautaire, tout ça. Mais quand c'est plus le rapport à soi, ben, les gens ont des activités symboliques, ils vont lire, ils vont méditer. J'ai parlé de Lynn, tantôt, qui fait du tai chi, tout ça, qui parle à ses morts, elle parle à son mari. Anna aussi, Piti aussi font ça, ils mettent de la musique de leur pays quand ils s'ennuient, quand ils ont les bleus. Ils regardent les photos de famille, tout ça. Donc, après son produit. Donc, il y a des stratégies aussi. Les gens ne sont pas passifs non plus face à leur solitude. Ça fait beaucoup de choses. Ben des affaires. Je vous ai garoché ça un peu, mais pour jaser, y a-t-il des choses qui ont plus de sens? Ça peut être par rapport au vivre seul, au fait d'être seul. Puis là, on a mis les punchlines sur les enjeux, mais par rapport à vos expériences, c'est à votre tour.